VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Dakar, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Burundi, au procès des militaires et policiers jugés à la Cour suprême pour leur participation au coup d'État manqué des 13 et 14 mai 2015, le ministère public a requis aujourd'hui la prison à perpétuité pour les 28 accusés, selon des sources judiciaires et des témoins. Les parties civiles, notamment le CNDD, FDD au pouvoir, l'armée et la police burundaise, ainsi que la radio REMA, proche du gouvernement et détruite par les putschistes, ont réclamé de leur côté des dommages et intérêts de plus de 18 milliards de francs burundais, soit 10 millions et demi d'euros. Pour sa part, le général Cyril Ndayi Rukiye, numéro 2 des mutins et principal accusé, a refusé de plaider sa cause en dénonçant un procès inique. La Cour avait, dès la deuxième audience, récusé ses avocats qui demandaient un délai supplémentaire pour consulter le dossier de leurs clients. Toujours concernant le Burundi, le dialogue inter-burundais est dans l'impasse. Les pourparlers visant à dénouer la grave crise que traverse le pays ne reprendront pas à Arusha en Tanzanie aujourd'hui, comme prévu. Le gouvernement du président Pierre Nkurunziza ayant affirmé que la date du 6 janvier n'avait pas été consensuelle et qu'il n'avait pas l'intention d'être représenté à Arusha. On écoute Jean Kouabeko, proche du CNDD, le parti au pouvoir à Bujumbura.
L'organisation n'est pas bonne, n'est pas claire. Il n'y a pas de date fixe pour entamer le dialogue à Arusha. Il n'y a pas de préparation. Même la logistique n'a pas été organisée. C'est pourquoi toutes les parties prenantes au dialogue ne vont pas participer. Même le facilitateur, son Excellence Yoweri Museveni, ne va pas se rendre à Arusha. Parce que lui-même sait que la date n'a pas été consensuelle.
Pour sa part, l'opposition burundaise a indiqué que les discussions ne pouvaient pas concrètement reprendre ce mercredi, disant n'avoir reçu aucune information sur une nouvelle date. Tassien Siromana, du parti Uprona, affirme ne pas être surpris par le retrait du gouvernement burundais.
On avait déjà senti la chose venir. Maintenant que c'est officiel, nous déplorons bien sûr la démarche du gouvernement de facto de Bujumbura, qui ne nous surprend pas d'ailleurs, parce qu'il n'a nullement pas affiché la volonté de négocier. Seulement, nous lançons un appel vibrant à la médiation, parce que maintenant, il ne faut pas que la médiation se comporte comme si elle doit programmer les dates sur injonction du gouvernement, parce que le gouvernement est une des parties en conflit. D'ailleurs, c'est la cause de tous les maux qui s'écoulent au Burundi. Donc la médiation doit prendre la chose au sérieux et considérer que tout jour qui passe est un jour de plus de malheur pour les Burundais, et parce que les gens continuent à mourir, les gens continuent à être enlevés, les gens continuent à être torturés, à être emprisonnés sans aucune raison valable.
Tassien Siromana du parti Uprona au Burundi. En RCA, nouveau scandale d'abus sexuels de mineurs par des casques bleus et des éléments des forces internationales sur place. Le Gabonais Parfait Onanga Anyanga, chef de la MINUSCA, la mission onusienne de maintien de la paix, a promis aujourd'hui des sanctions fortes lorsque les responsabilités seront établies dans les toutes dernières allégations. En ce sens, visant les forces étrangères dans le pays. Les victimes présumées sont 4 fillettes soumises à une exploitation sexuelle à Bangui qui ont été interrogées par des enquêteurs de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. L'ONU a ouvert une enquête sur des casques bleus participant à la MINUSCA sans préciser de quel contingent il s'agit ni combien d'hommes sont impliqués. Mais selon des sources à New York, il s'agirait de soldats du Maroc, du Gabon et d'Égypte. Toujours en RCA, les réactions se multiplient après la contestation des résultats provisoires des élections groupées du 30 décembre par une vingtaine de candidats à la présidentielle. Parlement et gouvernement de transition appellent les contestataires au respect des voies officielles de recours. Par ailleurs, l'ANE, l'Autorité nationale des élections, poursuit la publication des résultats provisoires de la présidentielle. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Au cours d'une conférence de presse ce mardi à Bangui, le ministre de l'administration du territoire, Modibo Bachir Walidou, a indiqué qu'il est inadmissible de remettre en cause les résultats de ces scrutins jugés crédibles par tous les observateurs nationaux et internationaux. Au cours d'une entrevue dans la matinée avec une partie des candidats contestataires et deux des favoris, le président du Parlement provisoire, Alexandre Ferdinand Guindy, a demandé aux différentes parties prenantes d'éviter de perturber le processus en cours, mais de porter leur requête devant la Cour constitutionnelle constitutionnel de transition. Entre-temps, l'autorité nationale des élections poursuit la publication des résultats partiels et provisoires. Ce mardi soir, 53% des résultats globaux ont été rendus publics. Anissé Georges Doleguilé prend le dessus avec 179 236 voix contre 178 483 voix obtenues par Faustin Archange Touadéra à la tête il y a encore quelques heures. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, l'ONU envisage de réduire une nouvelle fois ses effectifs dans le pays. Cette proposition, motivée par les progrès réalisés dans la lutte contre les groupes armés dans l'Est, sera discutée la semaine prochaine au Conseil de sécurité de l'ONU. Plus de détails avec Nanit Talani.
C'est la deuxième fois en deux ans que l'ONU va réduire ses effectifs en RDC. Cette fois, 17 000 casques bleus vont quitter le territoire congolais compte tenu des progrès accomplis dans l'élaboration d'une stratégie conjointe de sortie et la réduction de la menace que constituent les groupes armés. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, estime que cette réduction ne compromet pas la capacité de la MONUSCO de s'acquitter de son mandat de protéger les civils, notamment par la neutralisation des groupes armés. Ces réductions sur le terrain ne changent pas le plafond des effectifs fixé à 21 000 soldats et policiers, si bien que l'ONU peut réaugmenter ses effectifs en cas de besoin. Ban Ki-moon propose aussi de réorienter davantage la MONUSCO vers des tâches de police dans la perspective des élections de novembre prochain. Il se dit profondément troublé par la montée des tensions politiques dans le contexte du processus électoral, par l'augmentation du nombre d'incidents en matière de sécurité et par les violations des droits de l'homme qui risquent de déboucher sur des troubles civils et des violences généralisées. Par conséquent, Ban Ki-moon encourage le président Joseph Kabila à engager un dialogue national visant à instaurer un consensus sur le processus électoral en cours.
Merci Nani Talani. On passe maintenant à l'Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Daniel Duncan Cablan et son gouvernement ont démissionné aujourd'hui. Le président Alassane Ouattara, réélu en octobre dernier, veut relancer son action pour le début de son deuxième mandat. Idriss Fall.
Le Premier ministre Daniel Cablan Duncan a annoncé sa démission peu avant le début de ce qui devait être le premier Conseil des ministres de l'année. Le président Alassane Ouattara a accepté sa démission en assurant qu'il veut plus d'efficacité dans l'action gouvernementale. Un remaniement était attendu depuis plusieurs semaines et la nouvelle équipe sera connue dans les prochains jours. L'économiste Cablan Duncan, 73 ans, est un cadre du PDCI, l'ancien parti au pouvoir, principal allié de M. Ouattara. Il avait été nommé le 21 novembre 2012 pour remplacer Jeannot Kouadio-Aoussou. M. Ouattara l'avait reconduit après sa réélection le 25 octobre. Cependant, il avait confié plusieurs fois qu'il voulait rajeunir l'équipe gouvernementale et y intégrer plus de femmes. À son investiture, il avait promis la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle, de renforcer le processus de réconciliation, lutter contre le chômage des jeunes, ainsi que l'adoption par référendum d'une nouvelle constitution ivoirienne.
L'Afrique de l'Ouest doit gérer chaque année entre 3 à 5 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Selon les données du réseau de prévention des crises alimentaires dans la sous-région et le Sahel, l'année 2016 s'annonce encore plus difficile. Pourquoi? La réponse de Sega Diarra, politologue et rédacteur en chef du journal en ligne MaliActu.net, basé en France.
Aujourd'hui, on constate que l'insécurité est la source principale de l'augmentation du taux de malnutrition dans la zone sahélo-sahalienne, d'autant plus que au-delà du caractère d'insécurité alimentaire, les États seront appelés à diminuer le budget alloué à la prévention de la sécurité alimentaire au détriment de la lutte contre le terrorisme dans la zone. Mais également, les populations se sont déplacées, donc ce qui les rend encore plus vulnérables, ce qui les prive de leur seule source de revenus, à savoir l'exploitation des terres. L'acheminement de l'aide reste l'épineuse question liée à la lutte contre la malnutrition, parce que nous constatons qu'au-delà des camps de déplacer, les humanitaires ont du mal à accéder aux populations les plus vulnérables parce que tout le monde ne peut pas accéder aux camps de déplacer. Donc, et l'insécurité dans la zone est un frein parce que ces populations population restent livrées à elles-mêmes et n'ont même pas accès aux services minimums.
Séga Diarra, politologue malien basé en France. Et pour terminer, le Conseil de sécurité de l'ONU a convoqué aujourd'hui une réunion d'urgence à New York à propos de l'annonce par la Corée du Nord d'un nouvel essai nucléaire nord-coréen. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.